Suivez Jacques, prenez-y garde. La recherche de la bourse et de la montre pourra devenir si longue et si compliquée que dans longtemps il ne rejoindra son maître, le seul confident de ses amours, et adieu les amours de Jacques. Si l'abandonnant seul à la quête de la bourse et de la montre, vous prenez le parti de faire compagnie à son maître, vous serez poli mais très ennuyé. Vous ne connaissez pas encore cette espèce-là. Il a peu d'idées dans la tête, s'il lui arrive de dire quelque chose de sensé, c'est de réminiscence ou d'inspiration. Il a des yeux comme vous et moi, mais on ne sait la plupart du temps s'il regarde. Il ne dort pas, il ne veille pas non plus, il se laisse exister. C'est sa fonction habituelle. L'automate allait devant lui, se retournant de temps en temps, pour voir si Jacques ne revenait pas. Il descendait de cheval et marchait à pied. Il remontait sur sa bête, faisant un quart de lieue, redescendait et s'asseyait à terre, la bride de son cheval passée dans ses bras et la tête appuyée sur ses deux mains. Quand il était là, de cette posture, il se levait et regardait au loin s'il n'apercevait point Jacques. Point de Jacques. Alors il s'impatientait et sans trop savoir s'il parlait ou non, il disait « Le bourreau, le chien, le coquin, où est-il? Que fait-il? Faut-il tant de temps pour reprendre une bourse et une montre? Je le rouerai de coups. Oh, cela est certain, je le rouerai de coups. » Puis il cherchait sa montre à son gousset, où elle n'était pas. Et il achevait de se désoler car il ne savait que devenir sans sa montre, sans sa tabatière et sans Jacques. C'étaient les trois grandes ressources de sa vie, qui se passaient à prendre du tabac, à regarder l'heure qu'il était, à questionner Jacques, et cela dans toutes les combinaisons. Privé de sa montre, il en était donc réduit à sa tabatière, qu'il ouvrait et fermait à chaque minute, comme je fais, moi, lorsque je m'ennuie. Ce qui reste de tabac le soir dans ma tabatière est en raison directe de l'amusement ou l'inverse de l'ennui de ma journée. Je vous supplie, lecteur, de vous familiariser avec cette manière de dire « emprunter » de la géométrie, parce que je la trouve précise et que je m'en servirai souvent.
Irritable. Rien ne fâchait. Le seul soupçon que son autorité fût méconnue le mettait presque hors des gonds. C'était particulièrement sensible lorsque quelqu'un essayait d'en imposer à son favori ou de lui commander un peu rudement. L'idée qu'on pourrait dire à ce dernier un mot désagréable créait chez lui une pénible inquiétude. Il semblait s'être mis dans la tête que parce qu'il aimait Heathcliff, tous le haïssaient et ne pensaient qu'à lui jouer de mauvais tours. Cela nuisait à l'enfant, car les mieux intentionnés parmi nous ne voulaient pas contrarier le maître, de sorte que nous flattions sa partialité, et cette flatterie fut un riche aliment pour l'orgueil de Heathcliff, et pour son caractère farouche. Mais c'était devenu une sorte de nécessité, deux ou trois fois une manifestation de mépris de Hindley, dont s'aperçut son père, mit le vieillard en fureur, et saisit sa canne pour le frapper et frémit de rage en s'y voyant impuissant. Enfin notre ministre, nous avions alors un ministre qui arrivait à joindre les deux bouts en donnant des leçons au petit Linton et au petit Earnshaw, et en cultivant lui-même son lopin de terre, conseilla d'envoyer le jeune homme au collège. Monsieur Earnshaw y consentit, bien qu'à contre-cœur, car il déclara « Hindley n'est bon à rien et n'arrivera jamais à rien, où qu'il aille ». J'espérais sincèrement que nous aurions désormais la paix. Il m'était pénible de penser que sa bonne action pût rendre mon maître malheureux. Je m'imaginais que son irritabilité, résultat de l'âge et de la maladie, ne provenait que des ennuis de famille, comme il voulait lui-même le faire croire. En réalité, vous savez, monsieur, c'est l'affaiblissement de sa constitution qui en était cause. Nous aurions cependant pu continuer de vivre assez tranquillement, sans deux personnes, Miss Cathy et Joseph, le domestique. Vous avez vu celui-ci là-haut, je pense, c'était et c'est encore très vraisemblablement le plus odieux et le plus infatué pharisien qui ait jamais torturé une Bible afin d'en recueillir les promesses pour lui-même et d'en jeter les malédictions sur ses voisins. Par son adresse à sermonner et à tenir de pieux propos, il avait trouvé moyen de faire grande impression sur M. Earnshaw, et plus le maître s'affaiblissait, plus l'influence de Joseph se développait. Il le tourmentait impitoyablement pour l'engager à s'occuper du salut et de son âme et à élever ses enfants avec rigidité. Il l'encourageait à regarder Hindley comme un réprouvé et tous,